Il n'y a qu'une seule sainteté, celle du Christ. C'est très important. Mais cette sainteté va de fait avoir des modalités différentes. Mais c'est la même sainteté. Les moyens de sainteté ne sont pas les mêmes. Vous voyez, on voit ça très fort dans la vie religieuse. Certains se sanctifient en parlant et certains se sanctifient en gardant le silence. Les moines se sanctifient en gardant le silence et les frères prêcheurs se sanctifient en parlant. C'est un autre type de sainteté, évidemment. C'est deux choses différentes, mais c'est vrai, on se sanctifie en donnant son intelligence à Dieu. On sanctifie son intelligence. D'autres diront, ah non, pas du tout, arrêt de l'intelligence. Et un saint François ne voulait pas développer son intelligence. Un saint Dominique voulait développer son intelligence. Pour Dieu, les moyens sont différents dans la sainteté. Les moyens sont différents, mais le même but, c'est la même sainteté. Et ça, c'est très important de comprendre cela. C'est pour ça que pour chaque foyer, les moyens sont différents. Alors, on peut présenter la sainteté de façon générale, mais les moyens sont différents. C'est très important. C'est pour ça que, vous voyez, ce qu'on va vous... Tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier, les méthodes naturelles pour, de fait, comprendre ce qu'est le mystère de la fécondité doivent nous aider. Mais comprenons bien que ce sont des méthodes. Donc, c'est relatif. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais une méthode absolue. La fin seule est un absolu. La sainteté seule est un absolu. Et c'est l'amour qui seul est un absolu. Tout le reste est relatif. C'est relatif. Et c'est très important de comprendre que c'est relatif. Parce que ça doit s'adapter différemment selon les circonstances de chacun. Et il est évident que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui quelque chose de très différent. C'était une des questions qui m'était posée. J'en reprendrai tout à l'heure. Parce qu'elle est intéressante. Mais c'est ça qu'il faut saisir. Que la sainteté est la même depuis Marie jusqu'à nous. C'est pour ça qu'on peut tellement bien comprendre le mystère de Marie. Marie n'est pas loin de nous. Plus on est saint, plus on comprend les autres. Et je me demande si on ne demande pas aux prêtres et aux religieuses d'être totalement consacrés à Dieu pour qu'elles comprennent mieux les difficultés qu'il peut y avoir dans la vie conjugale. Pour être là pour aider. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on comprend les niveaux différents de l'amour. Et on comprend qu'il y a dans le mariage une sainteté spéciale qui est cette incarnation de l'amour divin jusqu'au bout. Puisque l'instinct même doit être un moyen de se sanctifier. L'instinct à l'égard de l'aliment. L'instinct sexuel sont voulus par Dieu. Et donc, ils sont bons. Surtout pas de masochisme, moi. Ils sont bons. Ils sont un reflet de la sagesse de Dieu. Ils sont un reflet de la bonté de Dieu. Mais il faut que nous puissions comprendre que Dieu nous demande l'exercice de ses instincts, l'exercice de la passion, l'exercice de l'imagination en vue d'un amour divin, en vue d'un amour humain qui soit un amour de réciprocité et un amour personnel et spirituel. Parce qu'on sait que l'instinct, par nature, il est déterminé et il est aveugle. C'est très vrai que l'instinct, par nature, il est déterminé et il est aveugle. On le sait très bien. Il y a une force de l'instinct qui est extrêmement forte en nous. Ben, on le sait, mais on sait aussi qu'il n'est pas mauvais en lui-même. C'est l'usage de l'instinct qui peut être mauvais. C'est l'usage de la passion qui peut être mauvais. C'est l'usage d'une méthode qui peut être mauvaise. Si la méthode intrinsèquement contient quelque chose qui est contraire à la nature, alors elle est mauvaise. À la finalité de la nature, à la finalité de l'homme. Ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors, il faut comprendre que la grâce du sacrement de mariage, à la différence de la grâce du sacerdoce, à la différence de la consécration religieuse, va user de l'instinct sexuel d'une façon qui est conforme à la sagesse de Dieu. Pour un chrétien, c'est même. Et vous voyez, c'est là la très grosse, la très grande difficulté que nous avons quand nous devons dialoguer avec des gens qui ne croient plus à rien du tout. Alors là, c'est très difficile parce que la nature humaine, hein, c'est pas commode. Vous savez, la loi naturelle, c'est pas commode du tout de bien préciser la loi naturelle. Hein. On la précise dans la lumière de la sagesse de Dieu. Oui, dans la lumière de la sagesse de Dieu, je peux savoir ce que c'est que la loi naturelle. Mais en dehors de la sagesse de Dieu, c'est très difficile. Et ça, il faut bien le reconnaître. Autrement, on impose de l'extérieur des choses que les gens ne comprennent pas. Il s'agit de comprendre, parce que toute obéissance implique une prudence. Alors, quand on est chrétien, on obéit à l'Église. C'est-à-dire, on obéit dans l'Église à ceux qui ont autorité pour nous parler. Et on considère qu'ils ont autorité pour nous parler parce qu'ils sont gardiens de l'homme. Ils sont gardiens de la grandeur de l'homme. C'est pour ça, le Saint-Père, les évêques, unis au pape, la tradition de l'Église et l'enseignement actuel de l'Église impliquent cette autorité d'être gardien de l'homme, gardien du foyer, gardien de l'amour. Et tout doit être pris de ce côté-là, gardien de l'amour. Donc comprenons que la grâce du mariage, qui est une grâce d'abord d'amour, cet amour va impliquer le don des corps de l'époux et de l'épouse. Le don des corps, ça doit aller jusqu'à la sensibilité. La sensibilité de l'époux et de l'épouse doivent être sanctifiées. Saint Basile disait à ses moines que l'esprit de virginité devait transformer la sensibilité, devait transformer le regard. Alors je dirais, si j'espère de comprendre, la grâce du sacrement de mariage doit transformer la sensibilité des époux. Doit transformer leur passion, doit transformer leur regard. Il y a un regard d'amour de l'homme à l'égard de la femme, de l'époux à l'égard de l'épouse. Il y a un regard d'amour qui fait qu'on ne veut pas user de l'autre pour son plaisir. On use de l'autre dans l'amour mutuel de l'un par rapport à l'autre. Avec le plaisir, très bien, la joie qu'il peut y avoir, très bien, parce qu'elle augmente l'amour. Mais on ne peut pas accaparer. À l'intérieur, vous voyez, c'est là la lutte, c'est très vrai, c'est qu'il y a un égoïsme forcené en nous, et notre égoïsme se loge en dernier lieu, vous savez bien, en dernier lieu, notre égoïsme, il se loge dans notre sensibilité passionnelle, et il se loge dans notre instinct sexuel. C'est le dernier retranchement. C'est très curieux, ça. C'est très étonnant de voir ça. C'est le dernier tranchement et c'est là où, quelquefois, les dernières luttes se font. C'est pour ça que ça met du temps d'éduquer sa sensibilité. Ça met du temps d'éduquer les passions. Ça met du temps d'éduquer l'instinct sexuel. Parce que c'est pas commode. C'est une force qui nous est donnée, une force instinctive qui nous est donnée, et que nous devons comprendre que par la grâce de Dieu, par la grâce du Christ, par la grâce de Marie, on peut l'éduquer. On peut s'en servir divinement. Et en s'en servant divinement, on s'en sert humainement, c'est-à-dire avec amour, pour l'amour. Tout doit être ordonné vers cet amour mutuel et vers ce don de l'un par rapport à l'autre. Le don des corps n'est pas premier. Toute la question est là. Le don des corps demande d'être enveloppé du don spirituel de l'âme. C'est pour ça que l'Église maintient les fiançailles. Vous comprenez bien? Les fiançailles, c'est pour essayer justement de s'aimer spirituellement, profondément, et pour que petit à petit, la sensibilité de l'un et de l'autre puisse mieux se connaître. Et pour que, lorsqu'il y aura le mariage, le don des corps ne soit pas considéré comme un absolu. Le don des corps ne peut pas être un absolu, puisque, vous comprenez bien, en nous, notre corps n'est pas notre absolu. La chose principale pour nous, c'est notre âme spirituelle, c'est bien évident. C'est notre intelligence et notre capacité d'aimer. Mais nous ne pouvons pas séparer ce que Dieu a uni. Dieu a voulu une unité substantielle entre le corps et l'âme. Et c'est pour ça que le don total implique le don de l'esprit et du corps. Ça implique les deux, mais il y a toujours un ordre entre les deux. Et il faut maintenir toujours cet ordre entre les deux. À comprendre que, de fait, au moins dans l'intention, comprenez-le bien, au moins dans l'intention. Parce qu'il peut y avoir des sensibilités qui sont avec une telle véhémence et un instinct avec une telle véhémence qu'à ce moment-là, le point de vue de l'intelligence et le point de vue volonté, momentanément, ben oui, on n'y pense plus. Ça n'a pas d'importance. Dieu regarde les intentions. C'est ça l'importance. Dieu regarde les intentions. C'est ce qu'il dit dans le prophète Samuel. Dieu regarde les intentions des cœurs. Et c'est ça que Dieu nous demande en premier lieu. C'est là la sainteté. C'est les intentions du cœur. Et cette intention du cœur doit s'incarner dans un don mutuel qui implique le don des corps. Et ce don des corps doit être porté toujours dans un amour toujours plus fort, toujours plus fervent. Ce don des corps va impliquer nécessairement ce grand problème ou ce grand mystère de la fécondité. C'est bien évident que c'est là où on voit la responsabilité à l'intérieur de cet amour. La responsabilité, elle est premièrement au niveau de l'amour, et secondairement au niveau de la fécondité. Je respecte l'ordre, j'essaie de préciser. Ne séparez pas, faut surtout pas séparer, distinguons, pour préciser davantage. La responsabilité, elle est d'abord au niveau du don mutuel de l'un à l'autre. Parce qu'en se donnant, on se remet entièrement à l'autre. Donc on se désarme. C'est le propre du don. Et donc on est entièrement accueil et on est dans une vulnérabilité totale. Autrement, il n'y a pas de don. Et si on se maintient en se disant, mais non, non, il y a un don. Un don réciproque. Un don d'amour qui se fait dans cette réciprocité et qui implique par le fait même qu'on est responsable l'un de l'autre. Si on est responsable, on a un sens très grand de l'autre et un très grand respect de l'autre. Toute la question est là, du respect. Jusqu'où va le respect de l'autre? Je crois que c'est là où on doit saisir de la manière très profonde ce que représente ce don mutuel de l'un par rapport à l'autre. S'il n'y a pas ce respect de l'autre, comme autre, tel qu'il est, dans la vision de Dieu, si on est chrétien, et tel qu'il est, autant que nous pouvons le connaître, pour respecter ce qu'il doit être pleinement. Seconde responsabilité, c'est que ce don mutuel peut impliquer comme conséquence la fécondité. Et je dis bien comme conséquence, une conséquence qui est liée à cet amour, mais qui n'est pas l'amour. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Or, de fait, Dieu a uni l'amour et la fécondité. Et on ne peut pas les séparer. Et on n'a pas le droit de les séparer. Dieu a uni l'amour et la fécondité. Si vous regardez l'Écriture, vous voyez qu'à travers toute l'Écriture, c'est le grand leitmotiv. C'est très curieux, c'est le leitmotiv le plus profond de toute l'Écriture. L'amour est source de fécondité. L'amour tel que Dieu l'a voulu. Nous comprenons très bien, nous, en tant que chrétiens, parce que nous comprenons qu'il y a une fécondité même en Dieu. Alors ça nous fait comprendre que la fécondité est selon la chair et le sang, est quand même un écho de la fécondité de la très sainte Trinité. Autrement, on n'aurait pas un regard suffisamment vrai. Et suffisamment profond. Il y a une fécondité en Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a une fécondité parmi les hommes. S'il n'y avait pas de fécondité en Dieu, je crois que Dieu n'aurait pas fait ça. Il aurait pu le faire, c'est bien évident, il aurait pu le faire, mais je crois qu'il n'aurait pas fait. C'est une hypothèse complètement qui ne signifie rien, puisque de fait, Dieu implique la fécondité. Et si Dieu a voulu transmettre la fécondité pour l'homme et la femme, si Dieu a voulu un monde physique, un monde matériel, c'est pour communiquer la fécondité. Il n'a pas communiqué la fécondité aux anges. Les anges sont des monolithes. C'est extraordinaire. Les monolithes, les anges. Mais il n'y a pas de fécondité dans les anges. Il y a une communauté angélique au niveau surnaturel, mais il n'y a pas de fécondité. La fécondité est réservée au petit dernier. Le grand secret de Dieu est réservé au petit dernier, au Benjamin. Et ça, c'est très très important, parce que c'est ça qui a mis Lucifer en fureur. Que Dieu réserve un secret au petit dernier. Et que ce secret, il ne l'a pas donné avant. Il n'a pas voulu le donner avant. Il a voulu le communiquer au petit Benjamin. Le don mutuel, donc, des corps va impliquer et peut impliquer une fécondité. Alors, vous voyez bien, comprenez bien que la fécondité est une conséquence. Ce qui permet, dans la mesure où nous avons une connaissance plus profonde du rythme de fécondité de la femme, dans la mesure même où nous avons une connaissance plus profonde du rythme de fécondité de la femme, la prudence au service de l'amour peut permettre l'union des corps, en sachant très bien qu'il n'y aura pas de fécondité. Parce que certains sont scandalisés de ça en disant oh, c'est un truc, pas du tout. C'est tout simplement une distinction que Dieu nous demande de comprendre. C'est que l'amour a un absolu qui est indépendant de la fécondité. Parce que l'amour a sa propre fécondité, qui n'est pas nécessairement la conséquence physique. L'amour a en lui-même sa propre fécondité. C'est le don mutuel de l'un à l'autre. Et ce don mutuel de l'un à l'autre possède son propre absolu. Alors ça, c'est très important à comprendre. C'est très important à comprendre, et c'est, je dirais, facile de le comprendre une fois qu'on a vu que la fécondité est une conséquence. Mais faisons attention, parce qu'alors, à partir de là, vous voyez, on pourrait très bien dire « Ah mais oui, alors c'est très bien !» Donc, on peut employer n'importe quelle technique qui supprime la fécondité, et donc qui laisse l'amour. Et alors, à ce moment-là, je serai beaucoup plus angélique. Oui, mais vous aimeriez moins. Parce que Dieu nous demande le respect à l'égard de la fécondité. La fécondité n'est pas seulement au niveau humain. Alors c'est là où il faut bien préciser, en tant que chrétien, en tant que ceux qui reconnaissent le Créateur, la fécondité n'est pas seulement quelque chose d'humain. La fécondité implique une coopération avec Dieu. Elle est donc d'ordre sacré. Tout amour est sacré et porte en lui quelque chose d'éternel. Et la fécondité, conséquence de l'amour, au point de vue humain, implique quelque chose qui est d'ordre sacré, qui n'est pas seulement d'ordre moral. Vous voyez, on a trop moralisé, on a oublié le sacré. Il y a une chose qui me semble très nette, hein, et c'est dit dans l'Écriture, vous savez bien, notre première mère, hein, à tous. Donc ça, on la comprend très bien, notre première mère. Hein. On est tous liés à elle. Notre première mère, quand elle a mis au monde son premier fils, qui était un drôle de garnement, n'est-ce pas? Quand elle a mis au monde son premier fils, qui est Cain, c'est un drôle de garnement, mais quand même c'est notre oncle. Alors c'est quand même pas drôle. Eh bien, quand elle a mis au monde ce drôle de garnement, Ève, ne sachant pas ce qui arriverait, Ève a dit « J'ai enfanté un fils de par Yahvé. » C'est beau cette affirmation. C'est donc immédiatement cette révélation que la procréation, le mystère de la fécondité, implique un lien avec le Créateur. Et c'est en sens-là que la procréation a une dimension sacrée. Parce que ça implique un lien avec le Créateur. Et c'est cela qu'on oublie trop. Alors on va essayer de comprendre maintenant les conséquences de ça, parce que c'est là où il faut saisir. Dieu n'a pas voulu imposer un planning familial. C'est extraordinaire, Dieu aurait pu le faire. Hein. Ça aurait pu très bien faire. C'était très facile pour la sagesse de Dieu. Non. Dieu a laissé à l'homme et à la femme parce qu'il leur a fait confiance. Il a laissé à l'homme et à la femme la décision pour la procréation. Il leur a laissé la décision à l'égard de leur amour. Dieu n'a pas choisi pour nous notre épouse ou notre époux. Il aurait pu le faire. Alors on dit, ah, il y a des circonstances providentielles qui sont telles que c'est nettement le doigt de Dieu. Oui, de temps en temps, très bien, reconnaissez le doigt de Dieu. Mais le doigt de Dieu, ce n'est qu'un signe. Hein. C'est vous qui avez choisi. Hein. Et ne dites pas que c'est Dieu qui a choisi pour vous. Parce que si vous arrivez au mariage en disant, Dieu a choisi pour moi cette épouse, alors je l'accepte. Pas valide. C'est vous qui la choisissez. Donc Dieu a voulu ce choix mutuel. Dieu veut que l'union conjugale de l'époux et de l'épouse, que le don des corps soit libre dans une volonté d'amour. Dieu le veut, ça, dans une volonté d'amour. On n'aurait pas le droit de s'unir et de se donner sans l'amour. On n'aurait pas le droit, ce serait bestial. Ça, c'est bien évident. Dieu veut que ce soit dans l'amour et dans un amour mutuel. Un amour mutuel, une volonté mutuelle de s'aimer et de s'aimer pleinement et totalement. De s'aimer parce que on sait très bien que c'est cette volonté très profonde de Dieu qui veut cet amour. Dieu donc laisse à l'homme et à la femme l'initiative de la procréation. C'est peut-être là où on touche de la manière la plus fondamentale le respect de Dieu vis-à-vis de sa créature. Dieu veut que l'homme et la femme soient eux-mêmes pleinement responsables des conséquences de leur amour. Et Dieu répond. C'est pas Dieu qui décide en premier lieu. C'est pas Dieu qui décide en premier lieu. C'est l'homme et la femme qui décident en premier lieu. Vous voyez, ça, c'est Dieu qui laisse l'homme et la femme passer devant. Il les laisse passer devant lui. Lui, le Créateur, il laisse passer devant l'homme et la femme dans leur amour. C'est extraordinaire, ça. Si on avait ce regard profond, on comprendrait la grandeur de la procréation. Puisque c'est une œuvre commune avec Dieu. C'est Dieu qui demande cela. C'est Dieu qui veut que la création de l'âme soit après le choix des époux. Le choix du père et de la mère. Et la procréation de la création de l'âme se fait comme une réponse de Dieu. C'est une réponse de Dieu à l'amour des conjoints. C'est donc une alliance avec Dieu. La procréation, c'est une alliance avec Dieu. Et c'est l'alliance fondamentale avec Dieu. Donc quand on croit au Créateur, quand on croit qu'on a une âme spirituelle, je crois qu'on peut facilement comprendre cela. Et en comprendre alors la grandeur et l'importance. Et comprendre que ce n'est plus seulement de l'ordre moral. Il ne faut pas trop moraliser, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut comprendre qu'il y a là une dimension qui est au-delà de la dimension morale. C'est de l'ordre sacré. Donc c'est de l'ordre de l'alliance avec Dieu. Cette alliance fondamentale avec Dieu. À partir de là, nous comprenons comment va s'insérer le problème de la prudence. Tout amour, dans la mesure où il s'incarne, réclame la prudence. C'est bien évident. L'amour purement intérieur n'a pas besoin de prudence. Je t'aime infiniment. Oh oui, oui, oui. Ça, intérieurement. Hein. Déjà, quand vous le dites, c'est déjà plus infini. Mais ça ne fait rien, parce que c'est dit à tel moment. Hein. Mais intérieurement, l'amour humain a quelque chose d'infini. C'est bien évident. Et donc, c'est très vrai, et ordinairement, il vaut mieux le dire dans le silence, je t'aime infiniment. Et l'autre comprend, plutôt que de le dire. Hein, on peut le dire de temps en temps, c'est évident, mais si on le dit tout le temps, et puis que deux minutes après, on s'aperçoit que l'amour infini a des limites terribles, on se dit, mais on comprend qu'il y a dans l'amour quelque chose d'infini, intérieurement. Dès qu'il s'incarne, il est limité. Et donc, dès qu'il s'incarne, nécessairement intervient la prudence. Et la prudence intervient donc à l'égard des paroles, à l'égard des gestes.
C'est sûr.
Il y a là quelque chose qui est de l'ordre prudentiel. Une prudence au service de l'amour. On ne doit pas s'aimer instinctivement. On doit s'aimer avec spontanéité, mais la prudence maintient la spontanéité. Il ne faut pas croire du tout que la prudence est un frein. C'est juste l'inverse. La prudence est un engagement. C'est la prudence normande qui est un frein. Vous savez bien, peut-être que oui, peut-être que non. Hein? Alors là, on voit très bien, c'est un frein. Mais ça, ce n'est pas la vraie prudence. Hein? C'est la prudence du vieux paysan normand qui a beaucoup de peine de s'engager parce que peut-être que demain, il pleuvra. Alors, on va peut-être voir. Puis jusqu'au soir, on va attendre. Alors, ça, c'est la prudence frein. Mais la prudence véritable, c'est un engagement. On veut s'engager pleinement et totalement quand on est prudent dans l'ordre de l'amour. Parce qu'on sait que dans l'ordre de l'amour, il faut aller le plus loin possible. Il n'y a pas de limite dans l'ordre de l'amour. L'amour n'a pas d'autre mesure que l'amour. Il ne faut pas l'oublier. Mais il y a une prudence à l'égard de nos gestes, il y a une prudence à l'égard de nos paroles, c'est bien évident. Il y a une prudence à l'égard de nos actions. Là, il y a une question de prudence. Alors, c'est là où la prudence intervient, vous voyez, dans l'ordre des rapports qui peuvent exister entre l'époux et l'épouse. Il faut qu'il y ait là une prudence au service de l'amour. Et une prudence qui tient compte de cette conséquence de la fécondité. C'est bien évident, on doit porter les responsabilités de son acte. Et porter les responsabilités de son acte, c'est comprendre justement que l'union des corps, l'union sexuelle, peut impliquer la fécondité. Et que dans certains cas, elle impliquera, pas forcément, mais elle peut impliquer la fécondité. Et donc, on doit être responsable de ses actes. C'est l'homme prudent, là. La prudence consiste de regarder cette conséquence qui est très grande, et dont on apporte toutes les responsabilités. Autrement, on n'aime pas vraiment. Vous voyez ? Parce qu'autrement, on n'aime pas vraiment. On a coupé l'amour de ses conséquences, et donc de son incarnation. On n'a pas été jusqu'au bout de l'amour. C'est là où je crois qu'il faut comprendre la grandeur de cet amour conjugal dans toutes ses conséquences. Alors, au point de vue de la prudence, on peut très bien se servir de certaines méthodes naturelles si on a jugé qu'il valait mieux pas avoir tout de suite un nouvel enfant. Et pour des raisons qui sont des raisons du couple. Personne d'autre n'a à intervenir. C'est le couple seul qui décide en face de Dieu du nombre des enfants. Et c'est vraiment le couple qui doit décider ça. Ce sont les décisions les plus importantes du couple dans l'ordre de l'amour. C'est eux à décider, c'est pas l'État. Non, c'est pas l'État. C'est le couple qui décide. Et quand l'État se met à intervenir là, l'État usurpe et n'a plus d'autorité. Plus aucune autorité. Il faut être farouche là-dessus. C'est un pouvoir qui devient un pouvoir tyrannique. Parce que de fait, c'est le couple qui décide. Et le couple seul décide. Ça fait partie de cet amour des deux et de la responsabilité des deux. Ils sont des personnes humaines à qui Dieu a confié et a donné cet amour. Vous voyez, autrement, alors il y a quelque chose qui intervient en dehors de l'autorité de Dieu. C'est dans ce sens-là que le couple est relié directement à Dieu. C'est dans ce sens-là que le couple est vraiment la communauté de base et fondamentale. Parce qu'elle est reliée directement au Créateur. L'État peut donner des conseils, laissez-le donner tous les conseils qu'il veut dans ce domaine-là. Les grands-pères peuvent donner tous les conseils, et les grands-mères aussi, et la belle-mère aussi. Elle peut donner tous les conseils possibles. Ce sont des conseils. Oh, oui, ça vient. Alors on laisse ses conseils, c'est tout. Quelqu'un d'autre, un ami peut donner des conseils, très très bien. Un prêtre peut donner des conseils si on demande conseils, mais ce n'est pas le prêtre à décider. C'est les époux qui seuls décident en face de Dieu. C'est trop important. Et ça, c'est très important parce que c'est l'unité même du couple qui est envisagée là-dedans. Dans sa grandeur en face de Dieu. Alors, on peut donner des conseils, mais pas plus. C'est les deux qui décident. Peut-être farouche là-dessus. parce qu'il s'agit de l'amour. Et donc il s'agit de quelque chose que Dieu nous a confié. Alors, les méthodes peuvent très bien, les méthodes naturelles, hein, on va parler d'autre chose, bon, mais les méthodes naturelles peuvent très bien intervenir au point de vue de la prudence. Et alors, au point de vue de la prudence, c'est tout simplement être plus intelligent pour comprendre qu'il faut s'aimer. Toute notre intelligence doit être au service de l'amour. Si on est un homme bien fait, et si on est une femme bien faite, encore plus. N'est-ce pas ? Toute notre intelligence doit être au service de l'amour. Tout le progrès de la science, tout le progrès de la technique doit nous permettre d'aimer plus et d'aller plus loin dans l'ordre de l'amour. Ça, c'est tout à fait juste et ça, c'est nécessaire. Alors, on peut très bien dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Très bien, ça, c'est tout à fait différent. Chacun d'entre nous, on a notre rythme, vous comprenez bien. Alors, on n'a pas nécessairement à dire, on va employer telle ou telle méthode. Ça, c'est un équilibre de chaque couple qui doit le comprendre. Mais il est bon de comprendre qu'il peut y avoir des possibilités dans ce domaine-là. Respectant la finalité de cet amour qui implique la fécondité. Respectant que l'amour a en lui-même sa propre finalité et sa propre fécondité. Voilà les deux choses que je crois absolument nécessaires à avoir toujours devant les yeux. Alors, les circonstances dans lesquelles on se trouve, je dis bien les circonstances dans lesquelles on se trouve, peuvent faire qu'au point de vue de la prudence, le jugement à l'égard d'une famille nombreuse ou d'une famille moins nombreuse varie. C'est évident qu'au début du siècle, hein, les familles étaient plus nombreuses. C'est sûr. J'appartiens à une famille, on est 12. Je n'ai pas regretté. On est, comme disait l'autre une fois, c'était un dominicain qui faisait ça. Il était de Bordeaux, alors il pouvait se permettre certaines choses, n'est-ce pas ? Et alors, on parlait des familles pas nombreuses ou nombreuses. Alors tout d'un coup, il a levé la main. Je suis le 7e. Alors vous voyez, si vous êtes pour la famille de 3, eh bien, moi, j'aurais pas existé. Ça aurait été dommage pour l'humanité. C'était une preuve à hominem merveilleuse et étonnante. C'est évident que c'est comme ça que, de fait, de temps en temps, n'est-ce pas, on montre qu'il n'y a pas d'absolu dans ce domaine-là. C'est selon les circonstances. Il est évident que les circonstances providentielles dans lesquelles on est modifient certaines choses. C'est sûr, ça modifie notre prudence. Ça ne change rien à la finalité. Mais ça modifie notre prudence. Et notre prudence doit être modifiée. Alors, le problème très délicat, pourquoi l'Église intervient-elle ? Puisque j'affirme, et l'Église l'affirme, que c'est un problème des conjoints. Alors, pourquoi l'Église intervient-elle ? Eh bien, l'Église intervient là par amour pour ceux qui sont mariés, qui sont ses enfants. Alors, l'Église intervient parce que on est en face de pression tyrannique, il ne faut pas l'oublier. Et c'est en face de certaines pressions tyranniques que l'Église intervient. Normalement, s'il n'y avait pas eu le péché, l'Église n'aurait pas à intervenir. Parce que chacun serait suffisamment intelligent pour comprendre ça. Mais l'Église intervient pour rappeler. Il y a des pressions aujourd'hui, on le sait très bien. Le démon essaie, d'une manière ou d'une autre, d'attaquer la fécondité et toute fécondité. Il est en rage contre la fécondité. Et c'est pour ça que l'Église rappelle la grandeur de la fécondité. L'Église rappelle que, de fait, c'est une coopération avec Dieu. Mais l'Église, rappelant la grandeur de la fécondité, montre aussi que, de fait, en raison de certaines circonstances d'aujourd'hui, les familles ne peuvent peut-être pas être aussi nombreuses qu'elles l'étaient avant, c'est sûr. Alors il y a un nombre que chacun doit déterminer selon sa prudence et dans la lumière de sa prudence. Et je dis bien qu'une prudence est toujours ordonnée à l'amour et à la qualité de l'amour, toujours. Et là, c'est un grand problème, je crois, très important de comprendre cette prudence dans cet ordre-là. Pourquoi l'Église interdit-elle tous les moyens qui arrêtent d'une manière artificielle le point de vue de la conception, le point de vue de la fécondation. Pourquoi l'Église est-elle là, très nette, et je dirais, vue de l'extérieur, assez farouche? Je me souviens, je vous dis là parce que c'est intéressant toujours de voir ces petits exemples. Je m'occupais à un moment donné, pendant 10 ans, je me suis occupé des secrétaires des syndicats chrétiens en Suisse. Des secrétaires des syndicats chrétiens catholiques et protestants, parce que c'est une œuvre commune. Ils m'avaient demandé de venir passer chaque année quelques jours avec eux. Ça m'a beaucoup intéressé, du reste. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et il y avait l'encyclique Humanae Vitae qui tombait juste à ce moment-là. Or, il devait avoir, juste avant moi, après moi, une petite session avec un économiste de Lausanne, protestant, qu'il connaissait bien. Alors, ils m'ont dit, écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas rester? Parce que je suis sûr, comme l'encyclique vient de paraître, que notre économiste va faire une charge violente contre l'encyclique. Nous serons incapables de répondre. Est-ce que vous accepteriez de répondre, d'être là, sans rien? Mais s'il attaque, vous pourriez répondre. Donc c'était tout à fait normal que je sois là, puisque j'avais été les jours précédents. Parce qu'ils avaient toujours des économistes qui venaient leur parler, ou des sociologues, mais ils avaient compris qu'il fallait, en plus, une certaine philosophie de l'homme. Et ils m'avaient demandé simplement ce fait de venir parce qu'ils m'ont dit « Nos collègues des syndicats socialistes vont se former à Moscou. Ils reviennent avec une vision dialectique de l'homme devant laquelle nous sommes incapables de répondre. » Alors nous voudrions que vous puissiez nous montrer comment nous pouvons répondre pour avoir une vision qui soit vraie de l'homme et pas une vision dialectique et pas une vision marxiste. Et c'est en ce sens-là que pendant 10 ans, je leur ai répondu. Parce que quand on a des demandes comme ça, on ne peut pas ne pas répondre. C'est impossible. Et c'est très important, c'est intéressant. Du reste, moi, ça m'a beaucoup apporté. Parce que je me suis plongé pendant 10 jours, du moins pendant quelques jours, et pendant 10 ans, c'était 3-4 jours, me plonger dans une mentalité qui est assez particulière, on le sait bien. Même en Suisse, qui est une mentalité assez spéciale, mais qui est intéressante à connaître. À essayer de dévisser un peu d'où ça vient, comment, et rectifier. Et je leur disais à ce moment-là que je parlais, quand j'allais à Paris, à des patrons. Alors ça, j'aimais mieux leur dire, pour bien montrer que j'étais pour l'homme, qu'il soit patron ouvrier, ça n'a aucune espèce d'importance, je suis pour l'homme. Alors ils m'ont dit un jour, mais qu'est-ce que vous dites à vos patrons? Vous n'avez pas le même langage qu'avec nous. Je dis non, j'ai le même langage, exactement le même langage. Je rappelle au patron la nécessité d'un travail humain, comme je vous rappelle pour vous un travail humain, et qu'il faut regarder l'homme. Et si vous êtes de vrais syndicalistes, vous êtes pour l'homme. Vous n'êtes pas contre le patron. Vous êtes pour l'homme, c'est pas la même chose. Ça, ils comprenaient petit à petit. Ils avaient de la peine au début, parce que mais ils comprenaient quand même. Ils arrivaient très bien à comprendre, à saisir qu'il y avait là un problème important à saisir. Alors, très bien, cet économiste est venu. C'est arrivé en plein milieu de la conférence, comme un cheveu qui tombait sur la soupe. Bon, c'était extraordinaire, hein. Et puis cette église qui s'occupe de problèmes qui ne s'occupe pas. Alors, très bien, on a laissé, moi je me suis dit. Après la conférence, on devait poser des questions. Alors, j'ai levé la main en disant, comme en Suisse, monsieur le professeur, vous êtes un économiste, je ne comprends pas très bien cette intervention que vous faites. Vous ne connaissez pas le problème. Non, vous ne connaissez pas le problème. Ce n'est pas un problème économique. C'est un problème humain. Et l'Église se base toujours du point de vue de l'homme. Pas du point de vue économique. Mais toujours du point de vue de l'homme. Alors, essayons de comprendre. Alors, on a essayé de comprendre, s'est rapproché. C'était un peu dur au point de départ. Mais au bout d'un certain temps, on s'est rapproché et on a essayé de comprendre. J'ai dit, c'est le respect de l'homme. C'est le respect de la femme. C'est le respect de voir qu'il y a dans l'homme et la femme une image de Dieu. Et donc une image de Dieu, on doit la respecter. Si c'est le chef-d'œuvre de Dieu, on doit le respecter. On n'a pas à intervenir d'une façon telle que quelquefois on ne sait même pas ce que c'est que cette intervention. On ne peut pas faire vis-à-vis de l'homme et de la femme comme on fait avec des animaux. Les animaux, on a le droit, l'homme peut dominer, c'est dit, que l'homme doit dominer sur les moustiques.
Il doit dominer sur les moustiques. Donc c'est normal que l'homme domine sur les moustiques, mais qu'il, sur les grosses vaches aussi, n'est-ce pas, de temps en temps. Mais il doit dominer sur les moustiques. Mais il n'est jamais dit que l'homme doit dominer sur la femme. On le considère au contraire comme une conséquence du péché. Il doit l'aimer. Quand on aime, on respecte. Et on respecte infiniment. On respecte ce qui représente la vie. Et on sait très bien que la fécondité, c'est un grand mystère. Et l'homme ne saura jamais ce que c'est. Jamais. C'est un mystère. La fécondité, pour un croyant, comme il était protestant, il était croyant, pour un croyant, c'est quand même quelque chose qui implique une alliance avec Dieu. Ça implique une bénédiction. Et c'est pour ça que l'Église rappelle que le dominium de l'homme, que le dominium de la science est limité. Parce que le dominium de l'homme et de la science et de la technique sont limités. Ils sont pour l'homme. Et donc, s'ils sont pour l'homme, ils doivent respecter la finalité de l'homme. Ils doivent respecter l'amour de l'un par rapport à l'autre. On n'a jamais le droit, quand on aime quelqu'un, d'utiliser des moyens qui vont contre ce qu'il y a de plus profond dans le rythme normal, profond de l'homme et de la femme. On doit respecter ce qu'on ne peut pas connaître pleinement et totalement. Et on doit essayer d'entrer dans ce que représente cette exigence de l'amour. Plus on aime, plus on est respectueux. Et je crois que c'est ça que l'Église nous rappelle tout le temps. Elle nous fait comprendre que dans ce domaine de la fécondité, on touche un mystère. Ce n'est pas un domaine d'efficacité. Alors c'est ça qu'il faudrait comprendre, la différence entre l'efficacité et la fécondité. La fécondité est liée à l'amour. L'efficacité est liée à des méthodes. L'efficacité est liée à des méthodes et à des techniques. Et elle est liée à... si vous voulez, à la science et à tout ce que ça peut représenter. Alors l'efficacité, c'est son domaine. L'efficacité, c'est la transformation de la matière. Mais l'épouse n'est pas la matière. Elle est une personne qu'on aime, que Dieu nous a confiée. Et si Dieu nous l'a confiée, nous devons essayer de faire que ce don que Dieu nous a fait, eh bien nous le respections jusqu'au bout, en faisant ensemble une œuvre commune. Vous voyez, c'est ça, je crois, qu'il faut essayer de saisir. Je vais lire tout de suite maintenant la question posée, ça permettra de mieux compléter. Doit-on s'en remettre à la Providence et considérer, c'est pour la contraception, doit-on s'en remettre à la Providence et considérer que Dieu nous donnera les grâces et les ressources nécessaires à l'éducation de nos enfants, quel qu'en soit le nombre et nos moyens matériels? Voyez la prudence. La prudence doit exister. Dieu ne veut pas que nous supprimions notre prudence. Alors Dieu peut demander une prudence telle. Ah, ça c'est autre chose. Alors voyez, c'est là où c'est l'attrait mystérieux. Dieu peut demander une prudence telle que nous nous remettions entièrement à lui en disant, très bien, nous nous aimerons profondément et puis on remettra à Dieu le soin d'avoir des enfants et de les éduquer. Ça peut se faire dans certains cas, mais attention, c'est pas une abdication de la prudence, c'est une prudence surnaturelle qui va plus loin. Et on n'a pas à en juger, parce que la prudence reste toujours quelque chose de personnel. J'ai pas le droit de juger. Ça peut exister, ça. Je ne dis pas que c'est normal, mais ça peut exister dans certains cas. Il a existé des foyers chrétiens comme ça. C'est sûr. Alors je ne dis pas que c'est imitable, hein. Faisons attention. Je ne dis pas que c'est imitable. Je veux dire simplement que la prudence a une prudence naturelle et une prudence infuse. Il faut le reconnaître. Et la prudence infuse nous remet à l'amour de Dieu. Donc normalement, je reviens pour que vous compreniez bien, il ne faut pas me faire dire des choses qui sont fausses, hein. Normalement, Dieu remet au couple le soin dans sa prudence, éclairé par la foi, éclairé par la charité, le soin de comprendre le nombre d'enfants qu'il faut avoir et le nombre d'enfants qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent éduquer normalement. pour l'équilibre du couple. Parce qu'il peut très bien se faire qu'un nombre d'enfants exagéré déséquilibre complètement le couple. C'est évident, ça. Ou alors qu'on soit, vous voyez, dans une attitude famélique et qu'on soit incapable d'élever ses enfants et qu'on les mette... C'est vrai, mais on peut comprendre aussi qu'une famille nombreuse aura moins de bien-être. Mais avoir moins de bien-être, c'est pas du tout diminuer le bonheur. C'est permettre quelquefois d'être beaucoup plus humain. Et d'une famille qui est plus nombreuse, ce sera plus dur. Mais après tout, c'est pas mauvais d'être élevé un peu dans la dureté. Je donne cet exemple, nous étions, nous, dans le nord de la France, hein, et pendant la guerre, mon père est parti, laissant ma mère avec 9 enfants, il était capitaine de réserve, il n'a pas cassé son... Il a jugé en conscience qu'il devait partir, et il a laissé ses 9 enfants, la 10e est née, après qu'ils soient partis, 3 mois après qu'ils soient partis, et ma mère est restée avec 10 enfants. Avec, très vite, les Allemands qui étaient présents. C'est merveilleux, parce que ça nous a donné un exercice merveilleux d'intimité merveilleux entre nous. Quand on est plus pauvre, on a un plus grand amour les uns vers les autres. Vous voyez, alors, c'est pour ça que c'est très difficile cet équilibre. Ça ne peut pas se juger de l'extérieur. C'est les époux qui doivent le juger eux-mêmes. Alors, c'est un équilibre qui doit se demander dans la prière. Et moi, je crois que ça doit se demander dans la prière. Si on est chrétien, c'est dans la prière qu'on doit décider ça, en face de Dieu. Parce que c'est une volonté de Dieu sur nous. Ce n'est pas nous. Si c'est nous, vous voyez, ce sera l'homme qui dira « Ah, je t'impose ça à toi, hein, c'est impossible autrement, c'est impossible autrement. » Non, c'est les deux, dans la prière, auprès du Christ. Alors, si l'épouse est plus généreuse que l'homme moins généreux, l'homme a plus l'attitude prudentielle, logique, on comprend très bien. Il dira « C'est impossible, regarde le budget, on ajoute, c'est impossible, c'est absolument impossible. Bon. » Très bien, l'épouse doit le prendre avec beaucoup d'amour et dire « Mais agrandis ton cœur, tu comprendras et tu verras que la providence sera là. » C'est là où l'intervention de la providence existe. C'est pour ça que j'ai dit que ça doit se décider dans la lumière de Dieu si on est chrétien. C'est dans la lumière de Dieu. Les grandes décisions se prennent auprès du Christ. Autrement, nous risquons toujours de faire une œuvre humaine et purement humaine. Et quand on fait une décision purement humaine, c'est pas chrétien. Et alors on ne tend plus vers la sainteté. On doit tendre vers la sainteté. Et les enfants font partie de notre sainteté, parce que nous les offrons à Dieu. Alors encore une fois, hein, je ne plaide ni le nombre, ni l'autre. Je plaide ce fait que dans la prudence, on demande à Dieu de nous éclairer. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais juger de l'extérieur tel ou tel foyer qui a tant d'enfants et tel autre foyer qui en a beaucoup plus. Soyons en admiration devant une famille nombreuse. Moi, ça m'admire. Je suis toujours en admiration devant une famille nombreuse. Je trouve que c'est très beau. Dans le climat d'aujourd'hui, je dis c'est merveilleux. Mais je ne suis pas en non-admiration devant une famille qui est moins nombreuse. Croyez bien, ce n'est pas ça du tout. Mais ça ne doit pas faire... voyez. Quelque chose qui, a priori, c'est la volonté de Dieu. Alors, la prudence peut aller très loin dans l'ordre chrétien. Ça peut aller très loin. Ça, je crois. Il y a des prudences héroïques dans l'ordre chrétien. Bon, voyez bien ça. Peut-on, au contraire, considérer les méthodes contraception actuelles comme un progrès de la médecine et l'accomplissement de la maîtrise de l'homme sur la nature voulue par Dieu? Ça, c'est un très gros problème, très important. Le Saint-Père est très net là-dessus. Et l'enseignement de l'Église est très net là-dessus. C'est que le progrès de la science n'est un progrès, je dis bien un progrès. Le progrès de la science n'est un progrès que quand il respecte pleinement la finalité de l'homme. Quand il respecte pleinement l'amour dont l'homme est capable. Si ce progrès fait qu'on tombe dans une tyrannie, ça devient une tyrannie. Or, quand il s'agit de ces méthodes contraception, on ne peut pas le considérer comme un progrès. On peut considérer, je me souviens, c'était un biologiste que j'aime beaucoup, c'était au moment de la pilule. Il m'a dit, c'est extraordinaire, au point de vue scientifique, ce que ça représente. C'est vrai, au point de vue scientifique. Mais il m'a dit, c'est terrible de mettre entre les mains des hommes quelque chose qui risque de faire que l'humanité ne sera plus du tout ce que représente un effort. Le jour où il n'y a plus d'effort, il n'y a plus d'amour. Spiritualité de la planche. Et c'était très beau, la double considération. Il y a un progrès de la science, un progrès des connaissances de l'homme. Vous voyez, c'est exactement comme, j'allais dire, pour la bombe atomique. C'est ces progrès de la science qui sont très étonnants. Cette énergie extraordinaire que l'homme est en train de conquérir sur l'univers, c'est extraordinaire. Mais l'application, l'usage. Le point de vue prudentiel, c'est l'usage. Alors, comprenons bien, les méthodes de contraception actuelles ne peuvent pas être considérées dans la mesure... Vous voyez, c'est pour ça que c'est l'usage. Hein. Si on en use pour justement cette méthode de facilité, ben c'est contraire à l'amour. L'Église dit non, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que l'Église est là pour maintenir les exigences de l'amour. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Alors ceux qui sont incapables de comprendre ça, que voulez-vous ? On ne peut plus rien dire. Ils ont leur conscience. Je ne peux pas aller contre la conscience de quelqu'un. Mais je peux montrer objectivement pourquoi l'Église dit ça. L'Église dit ça pour maintenir la grandeur de l'amour et considérer qu'un amour, ça se conquiert. L'Église est là comme éducatrice pour nous faire comprendre que la sainteté du mariage, c'est une sainteté dans l'ordre de l'amour. Et cette sainteté dans l'ordre de l'amour consiste justement à faire que progressivement, on doit arriver à faire que l'amour implique ce très grand respect. Bon, qu'il y ait des bavures, on le sait très bien, que voulez-vous. C'est comme quelqu'un qui veut être doux. Ben, il y a des moments où il se met en colère. Ben, oui, il y a des bavures. Nous sommes tous des pécheurs. Reconnaître qu'on est pécheur, ça n'a jamais été condamné par Dieu. Ce qui est condamnable, c'est de croire qu'on évite le péché en faisant quelque chose qui n'est pas selon les exigences de ce que l'Église nous demande. C'est ça la gravité. Beaucoup plus, parce que ça, c'est au fond quelque chose de très subtil. On veut garder un cœur pur, alors que de fait, on ne peut plus le garder. Mais regardez sa faiblesse, où l'on fait ce que... C'est vrai, l'Église elle-même est la première à tenir la miséricorde. Mais il faut maintenir qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas baptiser des méthodes de contraception. L'Église est contre toutes les méthodes de contraception. Pourquoi ? Parce que c'est l'intervention d'un art dans un domaine où il n'a pas à intervenir. Il n'a pas à intervenir parce que l'action humaine de l'amour des conjoints implique la fécondité comme conséquence. Et donc, on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Or là, on sépare ce que Dieu a uni avec notre propre maîtrise. Alors que Dieu nous demande de comprendre profondément toute la responsabilité d'un acte. Peut-on adapter son perfectionnement à l'évolution économique du monde, à savoir, donc, autrefois, on avait beaucoup d'enfants, car la plupart mouraient en bas âge. On ne les avait pas à cause de ça. Alors que maintenant, oui, je vois très bien ce que ça veut dire. C'est comme l'infaillibilité pour le mariage. Vous savez, comme on vivait moins longtemps, son épouse avait des chances de mourir à 45 ans. Donc... Alors l'infaillibilité, ça durait moins longtemps, n'est-ce pas ? Alors, bon. Alors que maintenant, l'espérance de vie est plus longue et le temps nécessaire à leur bonne éducation plus court au contraire. C'est très vrai que toutes ces posées, ça, tout ça, c'est de l'ordre du conditionnement qui peut jouer dans l'ordre prudentiel, mais qui ne touche pas la finalité. Dans l'ordre prudentiel, c'est ce que je vous ai tout à l'heure. C'est plus facile d'avoir des nombreuses familles, du moins dans certains cas, ou la plupart du temps, c'était plus facile d'avoir de nombreuses familles dans le temps, même au début du siècle. Et c'est plus difficile maintenant. Ça demande plus d'énergie, plus de difficultés. Alors, je crois que, vous voyez, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que, de fait, l'Église quand elle intervient maternellement. C'est maternel, l'enseignement de l'Église. Hein. Ce n'est pas l'enseignement du gendarme. C'est un enseignement maternel. Et ça, je crois qu'il faut très très fort comprendre ça et le faire comprendre autour de nous. Le Christ apporte une exigence d'amour. Il ne s'agit pas de faire de tout cela une surloi. Non. Il s'agit de comprendre que le Christ apporte une exigence nouvelle d'amour. Et plus l'Église, dans son cheminement, chemine et s'approche du terme, plus elle prend conscience de cette exigence de l'amour. Et c'est cette exigence de l'amour qui va aller jusque-là, de faire qu'il y a un respect mutuel de l'un par rapport à l'autre. Et ce respect jusque dans le don des corps, c'est pas une limitation, c'est au contraire pour comprendre qu'on s'aime plus. Et c'est vrai, je crois, que vraiment on ne s'aime que quand il y a un effort. Bon, il y aura des faiblesses, mais c'est sûr, dans tout effort il y a des faiblesses. Dieu ne nous demande pas d'être infaillible, il nous demande d'aimer et de reconnaître que nous sommes pécheurs. Alors nous essayons d'aimer toujours plus, nous essayons d'aller toujours plus loin dans l'amour, mais en même temps nous savons très bien qu'il y a des faiblesses. Mais nous ne voulons pas baptiser ce qui n'est pas baptisable, parce que ce serait une erreur. Et maintenir une erreur, c'est mauvais ça. C'est la perversion de l'intelligence. C'est quelque chose qui ne va plus. Et alors tôt ou tard, c'est une répercussion sur l'intelligence. Tôt ou tard, c'est une répercussion sur l'amour. Alors je crois qu'il faut comprendre que l'enseignement de l'Église, qui peut nous paraître très exigeant dans ce domaine-là, c'est une exigence d'amour. C'est pas autre chose, c'est une exigence d'amour. C'est l'Église qui veut que nous allions jusqu'au bout de ce que le Christ nous demande. Alors quand nous regardons la grâce du sacrement de mariage, qui fait que le Christ est présent dans notre amour, nous comprenons qu'à ce moment-là, la grâce chrétienne nous donne la force de pouvoir réaliser certaines choses que des non-chrétiens ne peuvent pas réaliser. C'est bien évident, des non-chrétiens ne peuvent pas réaliser. Mais nous avons, nous, une force qui nous permet d'aller plus loin. Et nous comprenons que ce commandement de l'Église, qui peut paraître négatif, puisque ça se traduit négativement, est en réalité un commandement positif. C'est de s'aimer plus, et c'est d'aller plus loin dans l'amour. Donc l'aspect négatif, laissons-le pour l'extérieur, et nous prenons le point de vue positif. C'est que l'Église, qui est maître dans l'éducation de l'amour, l'Église nous enseigne d'arriver à cet amour plénier total. Alors voyez, ça n'exclut pas des quantités de cas très difficiles. C'est autre chose, il faut essayer de les comprendre, il faut essayer de saisir cette miséricorde merveilleuse de l'Église, cette grandeur de l'Église dans sa miséricorde. Et je crois que c'est très important dans le monde d'aujourd'hui. Sauver l'amour qui risque de se perdre, et sauver l'amour dans ce qu'il a de plus profond, l'amour de l'époux et de l'épouse. Bon, je m'arrête, hein. Je vois que j'ai été un peu plus loin, je m'excuse, n'est-ce pas ? Je m'excuse. Alors nous allons avoir maintenant un petit salut du Saint-Sacrement, puis après, René continue, hein. Il continue, pour ceux qui veulent, hein, vous voyez bien, je vous invite tous vraiment à rester, je crois que c'est important, surtout de regarder ces questions de méthode dans la perspective d'un amour toujours plus grand, en comprenant qu'une méthode n'a de signification que dans la mesure où on en use pour un amour plus grand.